Alors bonsoir à tous. À la demande du Rosh Yeshiva, on va faire un cours sur la Brit Mila, sur le sujet de la Brit Mila, étant donné que je m'occupe de cette mitzvah-là depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et donc il m'a demandé vraiment de faire passer le message. Vous allez voir, on va d'abord essayer de regarder au niveau de la paracha en soi. On va essayer d'un petit peu mieux de définir l'importance de la Brit Mila et sa portée. Et ensuite, on va essayer de parler de ce qui se passe aujourd'hui, parce que malheureusement, il y a une grosse partie du peuple juif qui n'est pas circoncis. Et on va essayer donc d'expliquer le pourquoi et le comment de ces choses-là, mais assez rapidement. En tout cas, étant donné que nous sommes dans les deux parachiotes qui parlent de la Brit Mila, l'Ech Lecha, dans lequel il y a l'ordonnance même de faire la Brit, d'accord ? Et là, maintenant, dans celle de Vaïra de cette semaine, dans lequel Akadosh Baruch Hu vient se révéler à Avraham Avinu. Alors on va essayer de comprendre jusqu'à où va cette mitzvah, et vous allez voir que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Le cheminement d'Avraham, d'accord, pourquoi c'était lui qui a été choisi là-dessus, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qu'on voit dans cette paracha, et la notion de perfection qui est atteinte et uniquement en passant par la Brit Mila. Et ensuite, on essaiera donc, comme je vous ai dit, de faire le point sur ce qui se passe aujourd'hui. D'accord ? Ça, c'est au niveau à peu près du sujet. Alors, d'abord, essayons de regarder ensemble le cheminement d'Abraham Avinu, parce qu'il y a là-dedans aussi de quoi prendre énormément de leçons, d'enseignements. Abraham Avinu, un personnage, si on part même, à la limite, je partirais même de Adam Arishon, rapidement, d'accord ? Adam Arishon, lui, est né, façonné par la main d'Hachem, d'accord ? Donc il est une créature parfaite, qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes aujourd'hui, d'accord ? C'est pas quelqu'un qui était dans son petit jardin, et puis il a fauté, on l'a fait descendre d'un étage, c'est pas ça du tout, d'accord ? Puisque le Midrash dit que quand les anges voyaient Adam Arishon, ils pensaient que c'était Dieu lui-même. Donc pour vous dire la puissance de la lumière qui émanait de Adam Arishon. Mais par contre, effectivement, une fois qu'il va fauter, il va devenir mortel, il va passer donc de l'immortalité à la mortalité, d'accord ? Ensuite, il va faire redescendre non seulement son statut à lui, mais également le monde entier va redescendre, d'après la Kabbalah, de plusieurs niveaux. Et jusqu'à aujourd'hui, on doit réparer cette faute qui a été faite. Alors, la conséquence de cela, c'est que il va avoir la notion de Orla sur lui. C'est-à-dire que lui était né façonné par les mains d'Hachem, il n'avait pas de prépuce. C'est uniquement après qu'il va fauter que la notion de mortalité va arriver sur lui, la notion de pgam, de défaut, la notion de... il va y avoir la faute, l'image de la faute, et donc le prépuce va être sur lui. Machar Baorlato, il y a écrit là-bas, est-ce que c'est vraiment physique ou pas physique, peu importe, mais en tout cas, toutes les générations qui vont ensuite venir derrière lui vont être avec cette notion de prépuce, et dans la paracha, il va falloir attendre 20 générations, d'accord, pour arriver à ce que l'homme finalement retrouve le cheminement qu'Akadosh Baruch Hu attendait. On a vu avec la paracha, jusqu'à Noah, finalement, il y a eu une décadence et Akadosh Baruch Hu décide de tout éliminer. Et ensuite, de Noah, on voit que cette décadence finalement continue. Il y a quand même quelques tzadikim qui tirent leur épingle du jeu, mais en règle générale, on voit que les hommes retombent complètement dans la notion d'idolâtrie, dans la notion des vices et autres. Jusqu'à ce qu'Abraham Avinu, lui, change complètement ce cheminement. Alors, l'histoire d'Abraham est très très intéressante et elle doit nous donner un petit peu une leçon. C'est que, on va voir que dans plusieurs étapes de la vie d'Abraham, il va à chaque fois être éprouvé et à chaque fois monter de niveau dans son rattachement avec le divin. La première chose qui est intéressante, c'est que Avraham Avinu n'a pas grandi comme nous. Avraham Avinu n'a pas grandi comme nous, dans le sens où Nimrod avait décrété, puisqu'il avait vu dans son... C'est un très grand astrologue, il avait vu qu'allait naître maintenant une personne qui allait carrément détruire sa royauté. Et donc il a décidé que tous les bébés qui allaient naître à cette période-là seraient tués. D'accord ? Ça, c'était le roi de Babylonie, il avait tous les pouvoirs, il a fait ainsi. Ce fameux Nimrod. Et donc la mère d'Avraham Avinu, elle, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va cacher son fils dans une grotte pour échapper à ce décret. Alors certains posent la question, elle le cache, mais après elle s'en va, elle le laisse comme ça tout seul. Alors effectivement, il y a eu une siyata d'Ishmaïa, c'est vrai, où il a eu du lait qui est sorti de la roche, donc pour pouvoir manger, et petit à petit, il va grandir comme ça avec ce qu'Akadosh Baruch Hu va lui donner. Mais et c'est très intéressant pour nous, c'est qu'il ne va jamais sortir de cette grotte. Il ne va sortir qu'à l'âge adolescent. Il y en a qui disent 3 ans, il y en a qui disent 4 ans, il y en a qui disent 13 ans, peu importe, mais en tout cas, il a déjà une conscience. Et du coup, et ça c'est vraiment un moussard que nous devons prendre dans la vie de tous les jours, c'est qu'il va aborder la vie avec un œil neuf quand il va sortir à l'extérieur. Et donc effectivement, il va être sans arrêt dans l'étonnement. Ce qui nous manque à nous, c'est que nous nous habituons à ce que nous voyons depuis la naissance. Et donc on s'imagine que c'est normal que le soleil se lève, c'est normal qu'une fleur vienne éclore, etc., etc. C'est des choses qui font partie des lois de la nature. Mais Abraham Avinu, lui, quand il a vu ça, il était émerveillé de voir une telle beauté de la nature. Et donc lui-même va rechercher, il dit que maintenant, s'il y a quelque chose d'aussi extraordinaire, qui ne s'étonne pas maintenant de voir une fleur, une tige verte qui va devenir maintenant quelque chose multicolore, qui ne s'étonne pas de voir maintenant une chenille et qui va donner un papillon fluorescent, etc. Mais d'où ? Et tout de suite, il dit, mais il y a un créateur là-dedans. Et il cherche. Et il va chercher à plusieurs niveaux. Bon, je ne suis pas... Non, ce n'est pas le sujet de la paracha, on ne va pas trop s'étendre là-dessus. Mais en tout cas, c'est très intéressant pour nous. Nous devons toujours apprendre à avoir un œil neuf lorsque nous regardons tout ce qui nous entoure. Et c'est uniquement dans ce cheminement-là qu'on va trouver HaKadosh Baruch Hu. Tout le temps être dans le questionnement, ne rien prendre pour argent comptant, ne rien prendre par habitude. Parce que le plus grand fléau, le plus grand piège pour un juif, et pour toute l'humanité d'ailleurs, c'est justement de vivre dans l'habitude, de s'habituer à ce qui nous entoure. Et quand on s'habitue à ce qui nous entoure, automatiquement, on devient un petit mouton et on ne va pas très loin. Avraham Avinu va faire tout l'inverse, il va sans arrêt dans le questionnement, et il va chercher HaKadosh Baruch Hu, jusqu'à ce que HaKadosh Baruch Hu va se dévoiler à différents niveaux. Petit à petit, il va se dévoiler à lui, il va se dévoiler quand il va être jeté dans la fournaise ardente, d'accord ? C'est là-dessus qu'il va y avoir le premier véritable contact où Avraham Avinu est prêt à mourir pour Hachem, parce qu'il sait que de toute façon, le but de notre venue dans ce monde, c'est de révéler le créateur de ce monde. Nous sommes dans un décor et il faut révéler et faire une place à celui qui a créé cet univers extraordinaire. Ça, c'est ce qu'Avraham Avinu va arriver. Le problème, c'est que quand il va être jeté, il s'inquiète non pas pour son devenir, mais il s'inquiète par rapport à ce message universel, primordial de l'humanité. Comme quoi, si moi je ne fais pas ça alors que j'ai trouvé maintenant, et je sais qu'il y a cela, qui va prendre le flambeau? Et si le monde retourne dans l'idolâtrie et dans ce qu'il est, ça ne sert à rien, il risque d'être détruit. Et donc, Abraham Avinu, au moment où il est catapulté dans la fournaise, je vous passe maintenant le Midrash là-bas, qui explique qu'à chaque fois que quelqu'un voulait prendre Abraham Avinu pour le jeter dans le feu, c'est lui-même, le feu sortait et le brûlait lui-même, donc jusqu'à ce que le Terara, il s'est déguisé, il a pris une apparence humaine, il dit, voilà, j'ai un conseil à vous faire, catapultez-le dans la fournaise. Tellement cette fournaise était immense, personne ne voulait s'en approcher, et celui qui s'en approchait était brûlé lui-même. Et donc, effectivement, il va être jeté dans cette fournaise, et à un moment donné, où il est en l'air carrément, il dit, mais Boré Olam, maître du monde, moi je sais qu'il y a un maître dans ce monde, mais si je meurs, qui va le dire? Qui va le dévoiler? Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu se révèle à lui et dit, tu as trouvé. Effectivement, il y a un maître du monde. Et à ce moment-là, le feu va s'ouvrir, il ne va pas être touché par le feu, ses cordes vont brûler, mais lui-même ne va pas en rien, même pas ses jouets vont être touchés. Ça va être un miracle extraordinaire au tel point que les gens sont complètement abasourdis. Nimrod va venir de lui-même voir cela, ils vont comprendre qu'ils ont affaire à une personne qui est donc avec une assistance divine très grande. Et donc Abraham Avinu va continuer comme ça, ensuite, à commencer à apprendre cette notion de monothéisme dans le monde, l'unicité d'HaKadosh Baruch Hu. Dans notre paracha, à nous, ce qui nous intéresse ici, on voit que la paracha, la semaine dernière, à Molech Lecha, la paracha dit comme quoi Abraham Avinu a fait sa Brit Mila à l'âge de 99 ans. Alors c'est en fait qu'on voit qu'ici, il est arrivé à un niveau où il était d'une proximité avec Hachem forte, mais il lui manquait encore quelque chose, il lui manquait la notion de perfection absolue. Cette perfection ne va arriver que quand HaKadosh Baruch Hu va lui donner cette mitzvah de Brit Mila. C'est-à-dire en retirant quelque chose, il va obtenir la perfection. On reviendra sur cette notion Mezrat Hachem, vous allez voir tout à l'heure, pour comment se fait-il qu'en enlevant quelque chose, tu avances finalement dans ce rapprochement. Et donc effectivement, ici il a 99 ans, c'est intéressant qu'au niveau... Au niveau de la chassidoute, c'est intéressant de voir que, la Torah explique, même le Maharal explique, etc., que la notion de 100, puisqu'il a fini 99 ans, ça veut dire qu'il rentre dans sa centième année c'est la notion de perfection. Le 10, c'est la notion, d'abord il y a le 1, la notion d'unité, ensuite le 10, c'est la notion de perfection au niveau du chiffre, d'accord, c'est ce qui va faire tout le système décimal que l'on a aujourd'hui. Et quand on a le 100, c'est-à-dire le 10 dans le 10, donc on est, il y a une notion également de Schlemut, on revient souvent dans ces notions-là, d'accord. Donc il est dans sa 500e année, il va pouvoir maintenant rentrer dans cette perfection, et donc va lui être donné cette mitzvah de Brit Mila. Alors, Avraham Avinu, lui, une fois qu'il va avoir cela, d'ailleurs c'est très intéressant de voir que ici on voit que Vayar Hashem, Vayar Elav Hashem Be'eloné Mamre, Ve'u Yoshe Be'oel Petach Oel, Kechom Ayom, là-bas les Mefarshim disent, d'accord, Hashem va amener tout de suite, comme quoi c'est quoi, Kadosh Baruch Hu, il a sorti maintenant le soleil de son écrin, et donc il va y avoir une chaleur exécrable ici, intenable, je dirais plutôt, qui va permettre, alors d'après le Pshat HaPashut, d'après le sens littéral, c'est pour aider Avraham Avinu qui lui maintenant est au troisième jour de sa Brit Mila. Alors le troisième jour, c'est le troisième jour qui est le plus délicat. Le Maharal de Prague explique pourquoi ce troisième jour, parce que quand on a une maladie, cette maladie ne se répand qu'au niveau du membre au départ, et ensuite petit à petit elle s'étend jusqu'à ce que le troisième jour elle touche tout le corps. Et c'est là qu'il y a une véritable affaiblissement de la personne dans toute son entité. Donc c'est pour ça qu'il n'est venu que le troisième jour où il a vraiment là maintenant besoin de cette aide-là. De notre côté, on avait déjà fait un cours là-dessus, de notre côté on pourrait se poser la question, mais si c'est ainsi, alors il va dépêcher, on voit que Hachem va dépêcher des anges pour cela, d'accord. Et le Maharal explique qu'en fait on dépêche un ange que quand il y a quelque chose de vraiment, vraiment qui va transcender l'histoire du monde. Puisqu'on voit que Raphaël, d'accord, les trois anges vont arriver, donc Raphaël va venir pour donner la réfoua à Avraham Avinu. Et en fait, là-bas, le Maharal explique en fait que de là, on comprend que cette réfoua n'est pas une réfoua physique. Parce qu'on ne dépêche pas un ange pour donner quelque chose, d'aller réparer. On a vu des maladies bien, bien, bien plus graves que la Brit Mila, ou que la réfoua d'une Brit Mila, surtout que sur un adulte, même si c'était à l'époque peut-être pas dans les conditions que nous avons aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui en quelques jours est rétabli complètement, d'accord. Donc en fait, on comprend ici qu'il y a une notion beaucoup plus forte de cette dimension de Brit Mila, d'accord, qui est en fait quelque chose qui est spécifique au peuple juif. La preuve en est également, c'est que, vous savez qu'on fait la Brit Mila le 8e jour. La Gemara dans le Talmud, dans la Gemara je vais retrouver la référence. Là-bas, il y a une Gemara donc qui parle justement de toutes les différentes brachot du Shmona Esrei. D'accord, dans les différentes brachot du Shmona Esrei, là-bas, on énumère, d'accord, les différentes brachot, pourquoi elles ont été instituées dans telle et telle langue. Et la 8e bénédiction, c'est la bénédiction de la réfoua. D'accord. Et pourquoi là-bas, la Gemara dit, parce que la Brit Mila a lieu le 8e jour et elle a besoin de réfoua. Et là-dessus, encore une fois, les Mefarshim posent la question, mais pourtant on voit des maladies qui sont bien plus graves que la Brit Mila. D'accord. Et surtout sur un bébé, c'est tic-tac, au bout de, là aussi, quelques jours, tout est réparé, il n'y a même pas de points qui sont faits, etc. Tout se résorbe automatiquement. Et donc, la Gemara de répondre là-bas, en fait, de comprendre que ici c'est une réfoua qui touche au niveau du spirituel. Et c'est pour ça que la bracha que l'on dit dans la réfoua, on la termine en disant « Refer kolé ammo Israël ».« Refer kolé ammo Israël », donc ce qui prouve qu'en fait, c'est quelque chose qui est spécifique au peuple juif. Or, si c'était quelque chose de physique, alors il serait hors de question de donner ça aux juifs et de donner pas ça à toute l'humanité. Et on voit bien que de toute façon, les corps réagissent de la même façon, d'accord, d'où qu'ils viennent. Et donc en fait ici on a quelque chose de notion, une notion encore plus profonde, et l'intention du peuple du chiffre 8 également a une notion également de dimension de spirituelle totalement, puisque nous vivons dans un monde à 6 dimensions, donc tout ce qui a un rapport avec le chiffre 6 sont des mitzvot qui sont en rapport avec la matière, d'accord. On va faire une soukha, il faudra qu'il y ait 6 dimension, d'accord, les 4 méchitzot, en haut il y a le sra en beau, le sol en bas, pour montrer qu'on est complètement dans la notion de la matière. Quand on va avoir des mitzvot qui vont être avec le chiffre 7, on va passer maintenant nos israzal, mais en, on est entre le spirituel et le matériel, on est entre les deux, on passe entre les deux, d'accord. C'est la notion par exemple du Shabbat 7e jour, où on dit que c'est mehen olamaba, ça ressemble au olamaba, t'es pas encore dans la dimension du olamaba qui est infini. Mais tiens, entre les deux, mais un en là-bas. Et vous verrez qu'il y a plusieurs, également, on fait 7 tours au niveau des lanières, des tefilines, etc. Pourquoi 7? Pour montrer que maintenant, on va se rattacher dans le monde de la matière à travers ces tefilines, mais pour rattacher au spirituel, avec ces deux petits sifrets d'or, entre guillemets, entre ces parchemins qui ont une gdoucha très grande, et que l'on met à la fois au niveau du bras, au niveau de la tête, où on recrée la dimension pour la dimension spirituelle avec Hachem. Quand on passe à la notion du chiffre 8, là, on est complètement dans le spirituel. C'est la notion de la Brit Mila, c'est la notion de Simchat Torah, c'est la notion de Hanouka, où on va diffuser la Torah à l'extérieur, même au monde, d'accord, même envers le monde non-juif. C'est une des seules mitzvahs qu'on va faire. Vous allez rentrer bientôt là-dedans, dans les explications, où on va faire justement, on va divulguer, on va montrer, on va faire une mitzvah dans le Rishut Arabi, etc. Donc là, on voit que c'est une notion qui touche complètement à la Torah, et donc la Brit Mila elle-même, c'est la notion de spirituel, c'est la notion d'infini. D'ailleurs, vous voyez bien que le chiffre 8, au niveau mathématique, dès que vous le crochez, vous obtenez le chiffre infini. Également, c'est la même notion qui est véhiculée dans ce chiffre-là. D'accord ? Donc, la Brit Mila, en fait, va donner une dimension aux Juifs de le faire revenir à la dimension de l'homme avant la faute. C'est ça que va faire maintenant cette mitzvah, d'enlever ce prépuce qui n'a été que le résultat de la force qui bouche les canaux de compréhension maintenant, de proximité avec Hachem, d'accord ? Ça, il va falloir enlever ces choses-là. Le côté bestial, le côté animal qui est également véhiculé par cela. Et là, on va obtenir quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus profond, et qui va permettre à tous les niveaux, non seulement dans la Gdoucha physique, mais également, il va permettre à ce juif de se mettre, cette fois-ci, sur les véritables rails de sa vie. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu dit tout de suite à Abraham, une fois qu'il y a ordonné cette Brit Mila, « Italer lefanai v'tietami ». Maintenant, tu vas venir devant moi et tu seras dans la perfection. Là, maintenant, et c'est le dévoilement qui va avoir lieu, et d'ailleurs, on le voit tout de suite ici, parce que quand il y a écrit « Vayera, Elav, Hashem, Beloné, Mamré, Behu, Yeshev, Petach, Oel, Kechom, Ayom », alors on a expliqué le pshat à Pashut, parce qu'il a fait, pour ne pas déranger Abraham Avinu, qui est en pleine convalescence, mais d'après la Chassidut, ça va beaucoup plus loin, c'est qu'ici, en fait, cette lumière-là, c'est le guiloui d'Hachem. Hachem se révèle à lui, et cette révélation d'Hachem est d'une telle puissance qu'aucun autre être humain ne peut tenir devant. Et donc, personne ne peut être dehors. Et d'où l'explication que les personnes qui vont venir visiter Abraham ne seront que des anges. Mais un humain ne peut pas tenir devant une telle lumière ici. Donc ici, on comprend qu'il y a cette fois-ci donc ce dévoilement extraordinaire à Kadosh Baruch Hu. Et donc, va faire envers Abraham. Abraham Avinu va atteindre maintenant des niveaux de prophétie beaucoup plus élevés. Il va pouvoir enfin parler à Kadosh Baruch Hu sans passer par les notions de rêve, etc., ou des dimensions autres. Il va obtenir un niveau beaucoup, beaucoup plus grand. Ça, c'est ce qui va être donné, et c'est ça que ce révèlement va faire. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'en fait, la Brit Mila est une des seules mitzvahs sur lesquelles le juif va l'accomplir alors qu'il n'a aucune conscience, alors qu'il n'a aucun choix, puisque c'est le père qui est Metsouvé, qui est ordonné, mais envers son fils. D'accord ? Il n'y a que dans le cas où le père n'aurait pas fait la mitzvah. Et si le juif a dépassé la majorité, c'est-à-dire les 13 ans, où là c'est maintenant la mitzvah incombe sur lui-même de se circoncire, c'est une obligation jusqu'au dernier jour de sa vie. D'accord ? C'est tellement, tellement, tellement primordial que si Lo Aleinu Chas V'Shalom, il arrivait un cas où un juif ne serait pas circoncis, avant d'enterrer, nous devons le circoncire. C'est halakha. C'est obligé. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui entravera ensuite même également dans le monde futur des choses extrêmement, extrêmement importantes. Et donc, il y a une obligation, on n'a pas le droit de laisser un juif incirconcis. Donc vous voyez que ça va très très loin, on est très loin de la dimension que les gens veulent dire, oui, ben là, on fait une alliance dans la chair pour montrer qu'on est un peuple, etc. Ouais, très très bien, mais ça c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, mais vous ne voyez rien de ce qui se cache là derrière. Il y a des notions beaucoup, beaucoup plus profondes. Comme quoi, en fait, un juif, tant qu'il n'a pas fait la Brit Mila, une partie de son âme ne peut pas agir en lui. D'accord ? Il y a trois moments dans la vie d'un juif où il reçoit une partie de son âme. Ça veut dire quoi, une partie de son âme ? Ça veut dire qu'en fait, on a tous, l'âme, elle est là. Mais est-ce qu'elle peut agir ? Est-ce qu'elle peut maintenant m'aider dans mon quotidien ? Donc la première partie, c'est quoi? C'est celle de la Brit Mila. D'accord? Donc c'est à 8 jours. Il n'y a pas de conscience de l'enfant. Il n'y a pas de volonté de l'enfant. Pour vous dire que c'est tellement primordial qu'on ne lui laisse même pas ce choix-là. Parce qu'en fait, c'est tellement essentiel que si tu ne lui fais pas ça, au contraire, tu l'handicapes. Or, il est hors de question d'handicaper une personne. Et très souvent, quand les gens posent la question, mais oui, mais si c'est ainsi, laisse-le grandir et il choisira. Et très souvent, on entend malheureusement des mamans qui disent ça aujourd'hui, disent, attends, je vais lui laisser le choix, je lui ferai la Brit Mila quand il sera grand. Et, mais ça ne s'appelle plus un choix. C'est quoi avoir un choix? Il faut comprendre une chose, qu'avoir le choix, c'est de connaître les deux possibilités et de choisir. Mais si tu le mets dans la boue maintenant, pendant 20 ans, et après tu dis, mais écoute, je ne comprends pas pourquoi tu t'es sali. Mais il n'avait plus le choix à ce moment-là. Est-ce qu'il nous viendrait à l'esprit maintenant de ne pas mettre un enfant à l'école et lui dire, écoute, quand tu auras 20 ans, tu décideras si tu veux être ingénieur ou si tu veux être philosophe, etc. Mais petite fille, il est dans la rue pendant 20 ans, il est foutu. D'accord ? C'est exactement la même chose, mais à des niveaux encore plus forts. C'est que maintenant, on enlève la capacité de cet enfant d'être sur les rails de sa vie. C'est-à-dire que la personne va... Je ne sais pas qu'il survole un petit peu, il est là comme ça. Il n'est pas sur ses rails. La notion maintenant, même s'il y a En Marzal et Israël, mais il faut comprendre qu'on doit se mettre dans notre destinée. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu va nous demander petit à petit, la deuxième étape, ça sera quoi? Quand c'est qu'on va recevoir la deuxième partie des Neshama, c'est la Bar Mitzvah. C'est là où il s'inscrit maintenant dans l'acte décisif, décidé, d'accord? Et donc là, il va rentrer maintenant, il va décider lui-même à faire cet Avodat Hashem. Et donc petit à petit, il va grandir, et faire tendre son Yetzer HaTov, faire grandir son Yetzer HaTov vers les choses qui sont positives, d'accord? Donc ça, c'est au niveau de la Bar Mitzvah. La dernière partie, il la recevra le jour du mariage. Voilà, la Gemara dit qu'une fois qu'il passe sous le dénuptial, sous la roupa, donc là, il s'appelle Shalem, il est entier. Là, maintenant, ça veut dire quoi? Il est entier. Il n'était pas entier avant, il était le même. Non. Au niveau de sa Neshama, il a l'entité de son âme. Et là, maintenant, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il pourra rejoindre à ce moment-là, une fois qu'il passe sous le dénuptial, également la deuxième partie de son âme qu'il attendait, celle de son épouse, qui va également faire la complémentarité avec lui. Et c'est là qu'ils vont, tous les deux, rejoindre le côté féminin et le côté masculin d'une seule et même âme qui, maintenant, est en fusion.
Qu'est-ce que ça apporte la circoncision précisément à l'individu, au juif?
Alors, je reprends. Premièrement, déjà, ça le coupe de la notion de la faute, d'accord? Donc ça le fait revenir à une dimension qui était avant la faute. Évidemment, après, il faudra que l'enfant garde cette bride. On verra ça tout à l'heure, d'accord? Deuxièmement, c'est quelque chose qui le met en contact avec le divin, et c'est comme ça qu'on reçoit de l'énergie. Et cette énergie-là n'est pas moindre, elle est bien plus forte que l'énergie que l'on prend quand on va manger et qu'on a besoin de manger au niveau du corps. Au niveau du corps, on comprend très bien qu'il serait hors de question de ne pas manger pendant 3 jours, mais par contre, ça ne nous gêne pas de ne pas étudier ou de ne pas faire des choses pendant 3 jours, mais c'est fou, c'est pas vrai. Normalement, on doit réaliser que si on remplit les batteries, et vous pouvez maintenant en avoir l'expérience, bah, au prochain que vous êtes ici à l'Echiva, c'est que quand vous verrez que quand on prend une habitude, si un jour on oublie de faire quelque chose, on va tout de suite le ressentir. Même dans notre corps, on va le ressentir. Il va nous manquer quelque chose. Donc on voit que ça, cette énergie-là, elle se... Et encore, on est aujourd'hui à des niveaux extrêmement petits par rapport à ce qu'il y avait avant. D'accord ? Très souvent, on va se retrouver confronté, et nous on a une expérience maintenant de nombreuses années là-dedans, de jeunes qui n'ont pas choisi, malheureusement en plus, c'est très difficile, ça fait de la peine, vraiment. Pourquoi? Parce que c'est des jeunes qui n'ont pas choisi ça, parce que c'est les parents. Alors évidemment, de quoi on parle ici? On parle en règle générale de jeunes qui sont issus de mariages mixtes, d'accord? Et dont il y a eu une confrontation entre le père et la mère, le père n'est pas juif, la mère est juive, donc l'enfant est juif à 100%, il doit faire toutes les mitzvot, même s'il n'est pas circoncis, d'accord? Il peut monter à la Torah, contrairement à ce que les gens disent, etc. et tout, c'est faux. Il peut monter à la Torah, il doit mettre les tefillines, il doit tout faire. Mais évidemment, c'est vrai que la première chose qu'il doit faire, c'est la Brit Mila, parce que tant qu'il n'a pas ouvert cette porte-là, et donc il n'a pas accès à ce monde de ce rattachement à Hachem, de ce monde spirituel, et donc ça va aussi lui créer des problèmes psychiques et des problèmes psychologiques. Pourquoi? Parce que tant qu'un être ne vit pas sa véritable vie, il va être sans arrêt en balancement comme ça entre deux entités, de ce qu'il est, de ce qu'il devrait être. Et donc, ils ressentent beaucoup de choses, beaucoup d'attirance vers la spiritualité, ou vers des choses plus profondes qu'ils n'arrivent pas à définir, mais ils ne savent pas ce que c'est, Et ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus, et ils n'arrivent pas à faire le pas. Et c'est très très difficile pour eux, parce qu'ils savent qu'ils sont juifs, dans la plupart des cas. Ils savent qu'ils sont juifs, mais ils n'arrivent pas non plus à rentrer dans le monde juif. Et évidemment, encore moins avoir des relations, ou aller oser aller fréquenter, oser se marier avec une fille juive, justement par leur état physique, de là que c'est très difficile pour eux. Donc il faut vraiment... c'est pas du tout évident. D'accord ? Donc, cette notion-là de perfection qui est atteinte uniquement lorsqu'on a fait la Brit Mila, alors évidemment, et je profite de cette aparté-là maintenant pour bien montrer comme quoi il est primordial, et ça c'est ce que nous devons réaliser, il est primordial de comprendre que la Brit Mila c'est juste la première porte qui s'ouvre, mais par après, pendant toute sa vie, le juif doit faire la Brit Mila. Ça veut dire quoi qu'il doit faire la Brit Mila ? Ça veut dire qu'il doit garder ce brit. Il doit garder ce brit dans lequel état on l'a fait. Parce que si maintenant, de la même façon qu'on voit que Adam Arishon, Machar be Orlato, il est arrivé maintenant à faire une faute et qu'il est redescendu, d'accord ? La même chose également, il faut que l'homme revienne et garde cet état originel en gardant ce brit. S'il ne l'a pas fait, il peut faire toujours tchouva, et la tchouva est là pour tout. Mais il est primordial de décider et de comprendre que cette notion de sainteté qui touche au niveau du brit, vous allez voir qu'elle touche en fait des notions très très profondes, et ben il faut garder cela. On va voir ici maintenant dans des notions comment faire cela. La brit qui était quelque chose de... pour montrer que la puissance de cette mitzvah, d'accord ? Il y a 13 alliances. Dans la paracha de l'Eklecha, vous avez vu que sur la paracha de la Brit Mila, 13 fois est mentionné le mot Brit. C'est la seule fois dans toutes les mitzvot de toute la Torah qu'il est mentionné autant de fois la notion de Brit, la notion d'alliance. On l'appelle d'ailleurs la mitzvah elle-même Brit Mila. D'accord ? Brit Mila, le mot Brit a une valeur numérique de 612 pour montrer que cette mitzvah-là vaut les 612 autres mitzvot. Ça veut dire que rien ne peut passer sans cette mitzvah. C'est intéressant de voir également qu'au niveau du Shulchan Aruch, c'est une des seules mitzvahs, à ma connaissance c'est la seule, mais non, il y aura peut-être d'autres, mais en tout cas, j'ai pas trouvé encore, comme quoi il y a une obligation, lorsqu'on rencontre une personne qui n'a pas fait la Brit Mila, on a l'obligation soi-même de le circoncire. Et si on ne sait pas le faire, alors on doit amener cette personne-là au Beit Din ou à des personnes compétentes qui vont pouvoir le faire. Non, mais c'est quelque chose, pour que vous compreniez la puissance de cette mitzvah. C'est-à-dire que quelqu'un, maintenant, il fait pas Shabbat, comme on a vu Shabbat dernier, ils ont fait un Shabbat mondial, et c'est magnifique. Tu as une mitzvah d'aller inviter ton frère juif qui ne fait pas Shabbat. Si tu le fais, tu fais une mitzvah. Mais c'est pas une obligation. C'est pas que je dois courir maintenant pour à chaque fois l'inviter, etc. Non. Si je le fais, tu fais une mitzvah. Mais j'ai pas une obligation. Alors que pour la vraie mitzvah, tu as l'obligation. Ça va même plus loin là-dessus, je ne dirai pas maintenant les conséquences de ça, sur le Rambam, ce qu'il dit maintenant sur celui qui ne fait pas, etc. Mais bon, je ne vais pas apeurer les gens, mais en tout cas, il faut comprendre qu'ici, c'est tellement primordial, que tu dois tellement réaliser qu'une personne juive qui n'a pas la Brit ne peut pas vivre sa vie, n'est pas lui-même, que tu es obligé de lui venir en aide. Ça va très très loin, d'accord ? Et donc, évidemment, si on n'est pas capable de faire cela, on va s'orienter vers des personnes compétentes. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que les gens se disent, bon, ben, il a, c'est comme ça, il n'a pas fait, il a raté le coche à l'âge de 8 jours, maintenant c'est trop tard. Il n'y a pas de trop tard. Même souvent j'entends des mamans qui me disent, écoutez, je m'excuse, je l'ai pas fait à l'âge de 8 jours, donc maintenant il ne pourra pas faire cette mitzvah. C'est pas vrai. Il doit la faire jusqu'à son dernier jour, tellement que c'est quelque chose de puissant. Alors, essayons de regarder maintenant comment Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses. Vous allez voir qu'il y a des notions profondes là-dessus. Vous savez que tout le monde entier, tout le cosmos entier a été fait à l'image de l'homme. Si vous regardez, d'accord, même au niveau de la Kabbalah, la façon dont les choses sont faites, la façon dont même sont expliquées, bien que ce soit complètement des métaphores, puisqu'il n'y a rien de matériel dans les notions des mondes d'en haut. Cependant, tout est fait maintenant pour que l'on comprenne et qui est fait à l'image de l'homme. Pourquoi en fait ? Parce que Chazal nous explique en fait que le but de tout cet univers, le but de tout ce cosmos, c'est l'homme. il doit arriver à sa mission de dévoiler Hachem dans le monde, de dévoiler la sainteté dans le monde et de faire une place à Hachem dans ce monde. Et le peuple juif a encore plus, évidemment, sur lui cette mission, puisque lui est déteneur du mode d'emploi de ce monde qui est la Torah. Normalement, n'importe qui devrait arriver à ça, juif comme non-juif. D'accord ? À l'époque d'Abraham Avinu, il n'y a pas de juif. On parle de quoi là-bas ? Ivri. Lui qui s'est mis de l'autre côté de la berge, Ever, c'est la berge, il est passé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il a laissé tout le monde de l'idolâtrie pour lui être de l'autre côté et promulguer ce message-là de monothéisme, d'accord ? On voit que tout celui qui venait, d'accord ? Et là, il cherche encore dans la paracha, on voit, c'est extraordinaire, il cherche quand même à promulguer ce message. Et donc, il veut à tout prix qu'il y ait des personnes qui viennent pour enseigner cela. C'est toute sa vie qui va faire cela. Il va faire ou Megayer Gerim, et sa femme aussi, elle va faire ça de son côté. C'est de quoi ? C'est de proclamer la vérité d'Hachem. Ça, c'est Abraham Avinu. Il va s'appeler Amud Olam. Le Rambam, il explique là-bas, Hachi Gia, le monde était dans la Vodazara, dans les grottes Vodazara, il explique, jusqu'à ce que vienne Amud Olam, le pilier du monde. Abraham Avinu, par son message, va complètement transformer le monde et le faire basculer vers ce sur quoi il devrait véritablement être, c'est-à-dire de reconnaître le Créateur, d'écouter maintenant, de demander, de chercher quelle est la mission de l'homme dans ce monde et d'arriver à faire une place dans notre cœur et donc physiquement également à Hachem ici. Alors, si vous regardez l'homme, ça, si on dit que tout est fait à l'image de l'homme, effectivement, vous allez voir qu'il y a au niveau du corps humain, par exemple, vous voyez que l'homme est fait sans arrêt en ambivalence, en parité, comme ça. Vous avez deux yeux, vous avez deux narines, deux oreilles, deux mains, deux bras, deux pieds, deux jambes. Il n'y a que deux choses qui sont uniques. On en avait déjà parlé avec ceux qui sont dans mon cours. Deux choses qui sont uniques au niveau du corps humain, c'est la bouche et la bride. Et c'est intéressant de voir que tous les deux sont au niveau de l'axe central du corps humain. Ce qui veut dire, c'est que le corps humain est comme un édifice. S'il n'y a pas un œil qui marche, tu peux te rattraper avec l'autre. S'il n'y a pas une oreille qui marche, tu peux te rattraper avec l'autre. Si tu as un pied cassé, tu peux te plier sur l'autre. Mais si tu as cassé la bouche ou tu as cassé la bride, ça veut dire ces notions-là, qu'est-ce que ça veut dire de casser ? Ça veut dire que ces notions-là ont été bafouées. Alors tout est brisé et l'édifice s'écroule. C'est pour ça que la puissance de la bouche, d'ailleurs ce sont les deux membres qui sont créateurs. La bouche crée physiquement, on peut tuer avec des paroles beaucoup plus même, je dirais que parfois que physiquement. La bouche a une puissance extraordinaire, et c'est pourquoi elle a une puissance extraordinaire dans le négatif, parce qu'elle a une puissance extraordinaire dans le positif, à travers l'étude de la Torah, à travers la prière, etc. Au niveau de la bride également, on sait que c'est l'âme, le membre qui est créateur également, et donc qui donne la vie également. Et les deux sont sur l'axe central. Entre parenthèses, c'est intéressant de voir que Eretz Israël aussi est faite à l'image du corps humain. Si vous regardez un petit peu la carte, l'Eretz Israël, vous voyez comme une silhouette comme ça, d'accord ? Vous avez dans tout ce qui est le haut, le Golan, c'est la terre, la tête d'Israël. C'est intéressant de voir que tous les Tanaïm, sans aucune exception, sont enterrés dans le Golan. Galilée, Golan, le nord de la terre, c'est quoi ? Parce que ça représente le cerveau. La tête, c'est le cerveau, c'est là où il y a toute la Chokhma. C'est là-bas que sont enterrés tous les Chachamim d'Israël. Par contre, il y a des tzadikim qui sont venus pour nous apprendre d'autres puissances. La puissance du contact avec Hachem à travers la Tfila. C'est qui ? Qui c'est qui a institué la Tfila ? Abraham, Yitzhak, Yaakov, David. Où sont-ils enterrés ? Au niveau du cœur. Jérusalem, Hébron. C'est là où c'est le cœur, si vous regardez le tronc qui est dessiné, la silhouette qui est dessinée, le cœur, c'est là où il y a Jérusalem, c'est là où il y a Hébron, c'est à côté. C'est la notion ici de Tfila. Pourquoi ? Ezehu Avoda Shebalev, nous dit la Gemara, c'est quoi la Avoda qui est le travail qui se fait avec le cœur ? Réseau de Tfila. C'est la Tfila. Donc là, on voit que ces gens-là sont enterrés là-dessus. Le seul qui est enterré au niveau de l'axe central, comme on avait dit, c'est au niveau de la bouche, au niveau de la bride,
c'est Yosef.
Yosef qui est à Shrem, c'est le seul qui est au niveau de l'axe central. Il y a un message ici extraordinaire parce qu'il représente le tzaddik Yesod Olam. C'est le tzaddik qui est au niveau du Yesod. Le Yesod, c'est au niveau de la bride, c'est au niveau de la sainteté, c'est tout ce qui va toucher à la sainteté. C'est là-dessus que l'homme va être éprouvé. D'accord ? Il va être éprouvé maintenant, à tel point que même Rabbi Nachman dit que tout le but de la venue sur Terre est justement pour cette épreuve-là. Celui qui va représenter le symbole même de la réussite à tenir, évidemment, comme vous le savez, c'est Yosef, avec toutes les parachiotes que nous verrons, d'accord, depuis Miquet, etc., et tout, à la suite, où on voit que Yosef va être éprouvé énormément dans cette notion-là de la brite. Il va tenir, et grâce à cela, il va donner la force, maintenant, pour tout le peuple juif, et pour tous les descendants du peuple juif, à tenir sur cette épreuve. Ce n'est pas pour rien, je vous dis franchement, qu'aujourd'hui, où nous sommes à la fin des temps, vous savez qu'à chaque fois que les Yetzer Hara, essayent toujours de détourner le peuple juif de son destin, de son chemin. Donc au départ, on va le prendre par des idées, on va le prendre par des notions, la Avodah Zarah, d'accord, l'idolâtrie, ensuite ça va être la Haskala, la philosophie, des choses-là. Et après, une fois qu'on voit que le juif y tient bon, alors on va essayer de redescendre, et jusqu'à ce qu'on arrive, le dernier espoir pour ce Yetzer Hara, quand il n'a pas de solution, comme on voit avec Bilam. Bilam a essayé de maudire le peuple juif, il essaye, il n'y arrive pas. La seule chose qu'il peut lui dire après, il lui dit, il conseille au roi, là-bas, il lui dit, écoute, maintenant on n'est pas arrivé, Hachem n'a pas mis dans ma bouche la malédiction, ce peuple-là est béni, la seule chose que tu peux faire, c'est énerver leur créateur. Comment ? Par leur conduite, en les débauchant. S'ils se débauchent, c'est là où le courroux d'Hachem s'enflamme. Donc il faut comprendre que quoi ? C'est que la dernière carte que va jouer le Yetzer Hara, ça va être de faire tomber le peuple juif au niveau du Brit, au niveau de la Kippa. C'est pas pour rien que ce sont sortis maintenant des ustensiles, des moyens de communication et des Internet, etc., où avant, il fallait oser pour aller faire ces bêtises-là, il fallait partir dans des quartiers malfamés, il fallait faire des choses, etc. Aujourd'hui, tu l'as dans la poche. Tu fais un sur un clic et t'es terminé l'histoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Yetzer Hara va tout faire pour essayer de faire tomber, mais pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que tant que le peuple juif est dans la sainteté, il ne peut pas le toucher. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de chizouk rabotai là-dessus, sur ces notions-là, au niveau du Brit, parce que c'est là-dessus qu'on est éprouvé, et chaque juif qui va à chaque fois faire un effort là-dessus, ne pas regarder, d'accord ? Et on voit que c'est quelque chose de très très grand, à tel point qu'il est écrit comme quoi que quelqu'un, rien qui tourne, détourne les yeux de quelque chose qu'il ne faut pas regarder, qu'il soit dans la rue, qu'il soit n'importe où, il dit qu'à ce moment-là, la tfila qui est faite sera forcément reçue. Tellement la chose est difficile. C'est qui ça ? Farshim qui explique maintenant sur la notion de Kedushat Abrit, Kedushat Enaim. Alors quoi ? La Brit, c'est quoi ? C'est au niveau du Brit lui-même, c'est au niveau des yeux, c'est au niveau des oreilles, c'est au niveau de la bouche aussi. Toute cette notion, pourquoi ? Parce que c'est connu que quelqu'un qui a une bouche qui est sale, c'est qu'il y a un problème au niveau de la Brit. Les deux sont complètement liés. D'ailleurs, le mot P et le mot Mila ont la même valeur numérique. 85, pour montrer qu'il y a une relation directe entre la bouche et la bride. Des gens qui sont pervers dans leurs actes, ils le seront aussi dans la bouche. Des gens qui font attention à ce qui sort de la bouche, ça veut dire qu'ils ont aussi une retenue sur l'homme. D'accord ? Donc il y a ici une dimension qui est extrêmement forte, sur laquelle nous devons énormément nous renforcer. Donc, je vois le temps qui passe, il y a beaucoup de choses que je voulais dire encore, je n'aurai pas le temps de le faire, mais en tout cas, Le message que je voudrais passer là maintenant là-dessus, il est vraiment important à regarder, c'est que premièrement, nous devons tous faire un effort. On va voir que tout doit se faire avec un effort. Il ne peut rien avoir dans la vie, on ne peut rien avoir sans faire d'effort. Et on apprend même de cette paracha, justement, même la notion de Orla, la notion de sang, qu'on t'enlève quelque chose pour que tu gagnes à un niveau. Pourquoi ? Parce que c'est justement quand on t'enlève que tu te rabaisses, et quand tu te rabaisses, tu peux monter. D'accord ? On voit que même pour Yitzhak, Abraham Avinu a voulu à tout prix faire une trace sur une Yitzhak dans la Keda, là-bas, dans la paracha de la fin de notre paracha de cette semaine. On voit que quoi ? Qu'une fois qu'Akadosh Baruch Hu, il est arrivé au plus haut niveau maintenant, il est prêt à faire la Shrita d'accord, de le sacrifice de son fils. Hachem ne lui a pas demandé ça, il a demandé maintenant de l'attacher sur l'autel, mais pas de le sacrifier. Lui, là, il pensait qu'il fallait jusqu'au bout, et c'était ça tout le jeu, en fait. Il fallait justement qu'il croie cela, il est prêt à le faire. Et à ce moment-là, une fois qu'Hachem dit non, il n'y a pas besoin, redescend, il dit non, laisse-moi lui faire une trace. Mais comment ça veut dire ? Laisse-moi lui faire une marque. Ça veut dire quoi, lui faire une marque ? Mais non, vas-y maintenant, va-t'en. Les méfarchés lui posent la question, les commentateurs disent, mais va non, maintenant que tu te demandes, vas-y, cours, redescends de la montagne. Non. Pourquoi ? Parce qu'il a compris qu'en fait, si maintenant j'arrive à faire ce chissaron-là, ce manque-là, c'est là qu'il va monter encore plus. Akadosh Baruch Hu lui dit, non, non. Tu n'as pas compris. Par le fait même qu'il soit arrivé à ce niveau-là d'abnégation, Yitzhak Avinu, il n'a plus besoin de ça. Il est à un niveau de perfection déjà, ne le touche pas. En tout cas, ce qui est important ici à Rabotai, c'est que de comprendre que véritablement se cache derrière cette mitzvah, je pourrais vous en parler encore pendant des heures, des dimensions inégalées, d'accord, des choses qui sont incommensurables. C'est très difficile de parler comme ça sur un pied de cette notion, sur cette mitzvah, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on voit tout de suite les conséquences d'une personne qui fait attention à cela, et on voit aussi tout de suite les conséquences fâcheuses d'une personne qui n'a pas fait cela. Le message que je voudrais faire passer à Rabotai et à tous les gens qui vont regarder ce cours, d'accord, le Rav Chaya m'a demandé de le faire parce qu'il appuie très fortement l'organisation que j'ai montée il y a maintenant 9 ans de cela, maintenant 9 ans, qui s'appelle World Brit. Donc c'est une association sur laquelle on aide tous les juifs, quel que soit leur âge et quel que soit leur lieu géographique, à faire leur Brit Mila le plus vite possible, le plus professionnellement possible, avec les meilleurs chirurgiens. On a des chirurgiens maintenant dans le monde entier, on a en France dans les plus grandes villes également, pour pouvoir faire cela le plus rapidement possible. Le message est comme quoi nous ne devons pas, nous n'avons pas le droit de laisser ces jeunes dans cet état. Même si c'est des personnes qui vous semblent loin, et croyez-moi, on en a pris des gens très très loin, vous pourrez regarder, ceux qui veulent regarder également, vous n'avez pas besoin de ça, mais en tout cas, les internautes pourront regarder sur le site, écouter les témoignages, et vous verrez les témoignages vidéo de ces jeunes-là, des gens, des histoires, on va sortir un livre également sur ça, Bezrat Hashem, j'espère en début de d'ici quelques mois, début d'année là maintenant, l'Oasit. Et pour essayer de faire réaliser aux gens comme quoi il existe aujourd'hui pas des dizaines et pas des centaines comme on croyait, mais des dizaines de milliers de juifs non circoncis rien qu'en Europe. D'accord ? Rien qu'en France, c'est des milliers sûrs, puisque nous avons réussi, rien qu'à nous seuls, à faire déjà plus de 200 jeunes à Paris. Pour vous donner un petit peu la notion, d'accord ? 200 personnes, 200 jeunes, qui ont entre moyenne entre 18 et 35 ans, à qui nous avons fait cela, c'est des jeunes qui ont découvert leur véritable identité, puisqu'évidemment il y a un problème d'identité très fort chez ces gens-là, comme on a expliqué tout à l'heure, des gens qui ont découvert, maintenant pour ceux qui le souhaitaient, maintenant ils ont découvert la Torah, ils ont découvert l'étude, ils ont découvert, on a plus de 85% de ces jeunes-là qui sont revenus dans les communautés maintenant, qui sont pratiquants dans le sens que maintenant, de leur plein gré, ils souhaitent maintenant vivre leur véritable vie. Il nous dit maintenant, on a cassé les chaînes d'un boulet qu'on traînait pendant tant d'années. Le nombre de jeunes qui m'ont dit, mais vous savez que ça fait 25 ans qu'on me traite de sale juif, ça fait 25 ans que je n'ose pas rentrer dans une synagogue. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni là ni là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont persuadé que maintenant on va rentrer dans une synagogue, mais si vous avez fait la rythme là ou pas ? Mais quel rapport ? Mais ils sont persuadés qu'ils ont tellement peur de cela qu'ils restent loin de toutes les notions. C'est dommage. Nous devons à tout prix les aider, on doit leur tendre la main. Alors évidemment, il y a parfois et très souvent des cas qui sont difficiles. Alors quand c'est difficile et que vous ne voulez pas en parler directement, contactez-nous et nous avons les moyens d'aller vers eux. Donnez-nous uniquement des renseignements si vous voulez pour qu'on connaisse un petit peu le contexte de ces personnes-là. On va y aller le plus diplomatiquement possible, on va y aller doucement, on ne force personne. On est là uniquement pour tendre la main à ces jeunes. Et croyez-moi, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines qui nous ont dit jamais j'aurais espéré qu'on aurait pu m'aider, parce que tout seul, je n'aurais jamais osé faire une telle démarche. Donc, vous avez un petit peu compris, j'espère qu'on aura le temps une autre fois encore de développer ces sujets-là, mais comprenez comme quoi le message est clair. Donnez-nous les coordonnées, parce que ce sont des jeunes qu'on ne peut pas nous trouver, puisqu'ils ont des noms de famille qui ne sont pas juifs, puisque le père, en règle générale, n'est pas juif. Et donc, on ne peut pas savoir où est-ce qu'ils sont. Et donc, mais pourtant, ils sont juifs à part entière. Aidez-nous à trouver ces jeunes. On essaiera de leur tendre la main, on essaiera de leur proposer leur service. Et vous verrez que vous verrez des gens avec un grand sourire, des gens qui reviennent dans, vraiment dans leur identité, qui vivent pleinement leur identité et qui pourront eux aussi très souvent réaliser un rêve qu'ils avaient souvent abandonné à cause de ça, de fonder à leur tour un foyer juif, ce qui sera même une marque du Mashiach, puisqu'il est écrit, et je finirai par cela, que le mérite d'Ishmaël était la Brit Mila. C'est pour ça que seul un peuple qui a la Brit Mila, entre guillemets, c'est pas la Brit Mila, c'est la circoncision à leur niveau, peut être sur le Har HaBayit, là où il y a le Beth Amikdash, parce que c'est le seul qui fait cela, et il ne peut pas y avoir de Eretz Israël sans la Brit Mila. Il ne peut pas y avoir maintenant un peuple non circoncis qui hérite la qui hérite Eretz Israël. C'est pour ça qu'il fallait éradiquer les peuples qui étaient là présents. Et ben, il faut savoir que Ishmaël a le mérite de faire ça. On voit dans la paracha la semaine dernière, il a le mérite de faire ça à l'âge de 13 ans, et donc c'est un mérite pour lui. Arrive, il nous dit le Zohar, arrivera une époque où le juif fera aussi la Brit Mila, plus âgé que Ishmaël, au-delà de l'âge de 13 ans, et cela va couper complètement leur mérite, et c'est là qu'on reprendra le chemin, et que Bezrat Hashem sera la venue du Mashiach. Amen.